La Cour paye aujourd'hui les vices de sa constitution originelle. Il y a un certain nombre de grands États qui n'ont jamais ratifié le statut de Rome, ils sont connus. Les États-Unis et la Russie, Israël sont bien évidemment le trio de tête habituel, ce qui fait que la compétence de la Cour est somme toute assez restreinte. Sur des États qui ont ratifié le statut de Rome, 34 États africains ont, c'est vrai, fait l'objet de l'essentiel de l'attention de la Cour jusqu'à présent. Et le seul précédent que l'on puisse trouver aujourd'hui qui ne soit pas un précédent africain, c'est l'ouverture d'une enquête en Géorgie l'an dernier. Donc c'est vrai que cette propension, en tout cas de la Cour, à privilégier ici l'Afrique, parce qu'elle est tenue par ses propres critères de compétence, a posé effectivement dès le début un critère de légitimité. Donc aujourd'hui, la question du retrait est finalement pas si inhabituelle ni inenvisageable que cela. Maintenant, il faut s'entendre sur ce que l'on entend par retrait. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas d'États qui se sont formellement retirés du statut de l'homme.
Vous avez évoqué les vices de cette Cour pénale internationale, l'absence des grandes puissances notamment. Est-ce que cela tient aussi au pouvoir de conférer, si j'ai bien compris, la saisine au Conseil de sécurité de l'ONU? Certains plaident pour une réforme et que l'Assemblée générale des Nations unies soit maîtresse et donc dépasse le veto des grandes puissances.
C'est une piste, effectivement, qui est activement promue. Aura-t-elle des chances d'être matérialisée? J'en doute. Mais a priori, pourquoi pas? C'est un projet politique qui est porté, donc il est valide par nature. Maintenant, il n'y a pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut déférer une situation à l'étude de la Cour. Il faut bien voir que c'est l'une des modalités possibles pour que la Cour puisse connaître d'une affaire. Il est aussi tout à fait possible, et cela arrive d'ailleurs très fréquemment, que ce soit des États qui défèrent une situation à la Cour, des États parties, en disant bah, écoutez, je demande à la Cour d'enquêter sur telle ou telle situation qui aurait pris part sur mon territoire, par exemple. Donc, la question peut-être, pourrait-elle être de procéder différemment, peut-être ne pas mettre tous nos espoirs dans une réforme ici qui viserait à préempter le rôle du Conseil de sécurité.
Certains observateurs dénoncent le fait que de plus en plus de pays africains tentent de gagner de la popularité en critiquant justement une domination occidentale à la Cour. On parle souvent de justice des vainqueurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette instrumentalisation?
Effectivement, cette instrumentalisation de la justice internationale, à titre personnel, ne me satisfait pas en tant qu'homme, en tant que juriste non plus, bien sûr. Maintenant, si on met cette dimension-là, on va dire hémisphère nord, hémisphère sud, de côté, et qu'on regarde un peu ce qui se passe en Afrique. Prenons la situation du Rwanda, par exemple. Bah, le Rwanda, dans son histoire récente, on le sait très bien, quels ont été les massacres qui ont été commis. On sait aussi que ces massacres-là ont donné lieu à la constitution du tribunal international pour le Rwanda. Et donc, on pouvait penser que le Rwanda serait un État vacciné, au final, contre cette critique-là. Ça n'a pas empêché le Rwanda de quitter un autre système, de façon plus discrète. La presse n'en a pas vraiment parlé ici. Le Rwanda s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le tribunal africain, qui ici est chargé d'apporter aux citoyens africains la protection de leurs droits. L'instrumentalisation qui en a été faite, c'était de dire nous refusons tout contrôle supranational. Donc, est-ce que la critique, elle est uniquement dirigée contre, une justice, disons-le très clairement, occidentale, ou est-ce qu'elle est dirigée directement contre l'idée même de justice internationale?